Y'a Combi présente.
Il va le faire tout seul, ça. T'auras pas besoin de lui dire « je push Dev dans Dev ». Il va pusher tout seul Dev, ça c'est sûr. Bon. Par contre, si tu lui dis « Dev 1 »,
les free sont...
et qu'il n'y a pas de Dev 1 distant, là, il va peut-être te poser la question. Mais vas-y, tu me dis dans quoi je push, parce que là, moi, je trouve pas de correspondance distante.
Du quotidien. Ouais,
chez Garbotte, 12h36.
Fais un gîte branche tiréa, là.
Gîte branche...
branche sans E.
Non, branche. On est en anglais, hein.
Ah bah oui, pardon, fais CD tiré.
Attends, mais tu peux te créer une branche V4 et puis la pusher dans V3.
Une sous-branche, quoi.
Bon. Ouais, c'est pas tu peux l'appeler sous-branche si tu veux, c'est pas vraiment branche. C'est une branche. Maintenant, faut que tu cherry-piques ta modif que t'as fait sur master et que tu la cherry-piques sur dev.
Oh, joli.
Que tu vois que ça fait louche. Ouais, non mais ça c'est Mac hein.
Je suis pas un geek.
Non, il fait juste 35 degrés à la campagne, on est devant des ordis.
Une journée à la campagne. Avec le genre de rébellion. Trop bien. Il fait beau heureusement.
Avec un Deslam à moins de 4 km.
Les fris sont du quotidien.
Ça me fait un peu peur tout ça quand même.
Donc tu disais, tu comprends pas par rapport à quoi ?
Suivre.
Every Wednesday. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
Oh, mais tu es sur Mega Combi aussi. Tu écoutes Mega Combi.
Ok, c'est parti.
Tous les mercredis à 18h.
Mega Combi, Prime Team.
C'est le prime time de Mega Combi ?
Non, je crois que c'est la Prime Team de Mega Combi, non ?
La prime team de Mega Combi.
À 18h ce mercredi.
Quelque part sur un sentier de randonnée de la Pampa française.
Excusez-moi, vous êtes bien Florence 69 ?
Oui, c'est moi. Et donc vous, vous devez être Pierre the Warrior.
Oui, enfin, tu peux m'appeler Pierrot. Alors, ce que je te propose, c'est de faire l'ascension du Mont Tordu. Alors, il y a un dénivelé de 900 mètres montée, 800 mètres descente. Ça te va ? C'est bon ? T'as un peu l'habitude ?
Ouais. Alors ? Qu'est-ce qui t'a plu dans mon profil ?
Ah bah la photo, hein. J'ai été particulièrement séduit par ton anorak quechua et puis ton pantalon dégrafable. Ça montre que tu sais t'adapter à toutes les situations.
Merci.
Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans mon profil ?
En fait, t'es seul qui m'a répondu. Ouais. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?
Bah en fait moi je viens de me faire licencier d'un abattoir porcin en Bretagne, du coup j'ai un peu de temps, ça me change les idées en fait.
Ah c'est génial !
Quoi, c'est quoi qui est génial ? Je pense pas, j'ai passé 15 ans à tuer des cochons et je me retrouve sans rien du jour au lendemain.
Non mais je voulais dire, par exemple si on se perd et qu'on croise un cochon sauvage par exemple, tu pourras l'attraper enfin, on va pas mourir de faim quoi.
Non mais t'inquiète, on va pas se perdre, regarde. Bon, je te montre sur la carte. Tu vois, ouais. On va suivre la combe du loup blessé.
Ouais.
Ok. Notre but, c'est de passer sur la crête du Mortuy. Là, tu vois la ligne de dénivelé.
Ouais.
Et puis, bah là, on va avoir un super point de vue sur la chaîne du Schlecker.
Ah ouais. C'est quoi ces arbres gris, là ?
Ah bah ça, c'est des pylônes d'hiver. D'ailleurs, c'est bien, c'est la saison, ils vont bientôt fleurir. Et au fait, là, je me demande, t'es bien équipé ou pas ?
Ouais, je crois.
Couteau suisse, boussole, carte, bonne chaussure de marche. T'as du labello ?
Non.
Putain, heureusement que j'ai prévu, j'ai toujours sur moi une petite boîte de graisse de cochon. Bon, c'est vrai que ça sent pas très bon, mais c'est très efficace contre les gerçures. Tiens, tu t'en badigeonnes un peu les mains, le visage, le soleil commence à taper et ça fait crème solaire en même temps.
Non, ça va aller, je crois.
Bon, écoute, hein, comme tu voudras. Tes lunettes de soleil, elles sont où ?
Bah regarde, elles sont là.
Non mais ça c'est de la merde. C'est juste pour faire joli. Quand on sera sur le glacier, la lumière va te faire mal.
Oh, mais tu crois qu'il faut vraiment qu'on aille jusqu'au glacier?
Bah, pourquoi on n'irait pas jusqu'au glacier? On est à la montagne. En haut de la montagne, il y a un glacier, donc on va aller sur le glacier. C'est logique, non? Qu'est-ce qu'on fait là si on va pas jusqu'en haut?
Bah juste, on marche, on discute, on pense, on réfléchit, on respire. Tu sais, pour moi, la marche, c'est une manière de retrouver sa place de modeste petit être humain dans cette grande nature.
Non mais attends, adopte-un-randonneur.com, c'est du trek, c'est du sport quoi, de l'adrénaline. Ça veut dire qu'on va courir dans les pierriers, on va sauter par-dessus les ravins comme des bouquetins.
Oh là, mais qu'est-ce que t'es speed? Attends, mais calme-toi. La marche, c'est comme une retraite, un moyen de se vider la tête, quelque chose qui apaise, quoi.
Non mais vraiment, t'aurais dû aller sur copaindebalade.org, hein. C'était bien plus adapté pour toi, puis sûrement à ton niveau physique.
Non mais j'ai un très bon niveau physique, hein.
Ouais, bah je demande à voir,
hein. Ouais, n'allons pas si vite, moi je suis prête à marcher longtemps avec toi, mais je peux pas tout donner le premier jour, il faut qu'on prenne notre temps, et le temps de la découverte, quoi.
Ok, ok, si tu veux. Par contre, t'as pensé au matos d'escalade quand même?
Non.
Putain, mais à chaque fois c'est la même chose, vous lisez jamais les profils en entier. Sur mon profil, je suis rando niveau 4 et niveau 4, ça veut dire qu'il y a un peu d'escalade.
Coup de Pierrot, essaye de marcher un peu sans trop te projeter. Tu sais, la marche c'est aussi une manière de se découvrir soi-même, voire d'obtenir des choses. Mais il faut savoir être patient.
Ouais, je voulais quand même m'assurer d'un truc. T'as bien tes papiers là?
Bah oui, pourquoi?
Parce qu'il y a 15 jours, j'ai rencontré une fille très sympa qui avait un léger accent, elle était du Kosovo. Et puis à un moment, elle est partie pisser derrière un arbre et je l'ai plus jamais revue. J'ai juste aperçu les gardes forestiers qui partaient du côté des Italiens avec elle.
C'est horrible.
Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu pleures? C'est pas grave, tu sais, ils l'ont renvoyée dans son pays, mais elle va pouvoir revenir. Puis l'avantage avec le Kosovo, c'est qu'elle est pas obligée de passer par Lampedusa.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est l'antenne relais là.
Bah quoi, l'antenne relais?
Mais je suis électrosensible.
Mais électrosensible, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas.
Aïe, dès que je rentre dans un champ électromagnétique, je suis triste. Mais alors très très triste.
Mais qu'est-ce que je peux faire?
On fait demi-tour. On rentre à la voiture.
Adopte-un-randonneur.com. Des rencontres qui marchent.
Le mercredi 18h,
Méga Combi Prime Time.
Prime Time, Prime Time, Prime Time, Prime Time, Méga Combi.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Écoutez Méga Combi sur Radio Cani, l'émission qui vous fait sniffer les ondes.
Je suis un koala, mignon et attachant. Toutes les femmes m'ont désiré au moins une fois dans leur lit. Me gaver de feuilles d'eucalyptus. Je ne crains rien en les consommant, car dans mon univers, les plantes sont légales. J'adore me prélasser dans les arbres. Et dès qu'il s'agit de bouger, mon naturel de feignasse revient au galop. Je suis au ralenti. Je prends mon temps.
Va dans la ville. Dans la ville? Il voit des gens qu'il n'a jamais vus.
Je me faufile entre les pieds des gens, entre dans la cuisine pour chercher de mettre des pains et du sucre.
Et il voit des gens qui marchent et qui parlent.
Mais je ne peux plus vivre dans la cuisine parce qu'il n'y en a plus de mettre des pains ni de sucre.
Et il ne comprend pas. Il voit encore des voitures. Ça l'impressionne.
Je me décide à le supermarché Carrefour, rien du sucre et du pain. Là, je me réjouis de ma vie, parce qu'il y a là plein de sortes de pains que je peux manger.
Et il dit, je suis habitué à la forêt, et ici c'est pas comme chez moi. Alors comment je vais faire pour retourner chez moi?
Pain noir, pain blanc, pain céréales, pain au chocolat. Sur terre m'envie pour tout ce que je symbolise. Les hommes, quand ils sont en larmes, juste avec mon charme, déposent les armes.
Les animaux dans la ville. Merci à Charlotte, Karim, Hakim, David pour leurs écrits et leurs lectures. Atelier d'écriture réalisé en 2010 au foyer des jeunes travailleurs de la Majot à Vénissieux.
C'est à qui là? Qui je sers? C'est... Bonjour.
Alors oui, oui, moi je voudrais bien une botte de radis, s'il vous plaît.
Oui. Non, non, j'ai tout préparé là, j'ai juste les
oui,
deux corbeilles de carottes, s'il vous plaît.
Alors c'est à qui?
Alors c'est à moi. Hein
non, j'étais là avant. Je suis pas d'accord. Chaque fois c'est la même chose, au marché de Vénissieux, je me fais doubler.
Bon, bah je vous laisse vous mettre d'accord et je reviens vers vous après.
C'est le focus du Grand Soir 3 à présent à l'occasion d'un anniversaire, celui des 30 ans de la marche pour l'égalité, Patricia.
Oui, qu'on avait aussi surnommé la marche des beurs, 1983-2013. Des dizaines de jeunes des cités de l'immigration marchent vers Paris pour se faire entendre et dénoncer la vague de crimes racistes également. Jamel Debbouze en fait un film bientôt, histoire de rafraîchir la mémoire de ses concitoyens sur cette mobilisation que certains ont déjà oubliée.
Vous aviez entendu parler de la marche pour l'égalité contre le racisme il y a 30 ans?
Non.
C'était, vous n'en avez pas entendu parler de cette marche? C'était, on a appelé ça la marche des beurs.
Non, non, jamais. Si, ce mot-là, il me dit quelque chose.
Vous en aviez entendu parler, non?
Non.
C'était terminé à Paris avec une grande manif à 100 000 personnes.
Non.
Vous aviez entendu parler?
Non, du tout. Ouais, mais ça a servi à quoi? Ça servait à rien du tout. Ça n'a pas changé les choses, quoi. Ça n'a pas changé. La marche, c'est bien beau, mais les résultats, il n'y en a pas.
Mais il y a combien?
On est à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes. Et en ce jeudi matin, 30 ans après la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est jour de marché.
Allez mesdames, 2 euros là-bas.
Reportage.
Franchement, ça marche. Racisme, il y en aura toujours. Hein. T'as pas au marché, même tu fais le tour du monde. Ils nous accepteront jamais, hein. C'est pas aujourd'hui ou demain ou plus tard. Hein. Les jugements, ils jugent des jeunes de banlieue qui n'ont jamais rien fait.
Ah ouais, je vous donne un autre exemple. Moi, je connais quelqu'un là, c'est un Rome, il a une famille. Il a 50 ans, il a au moins 4 ou 5 enfants. Il est parti pour postuler et le mec lui a dit non, je vous prends pas, les Roms, je vous fais pas confiance. Alors que le mec, il a son appartement, ça fait plus de 30 ans qu'il est ici là en France, hein. Tu vois. C'est, voilà, c'est un Rom. Et à cause de ça, eh ben, ils l'ont pas pris. Et pourtant, c'est un intérim, il a pas demandé l'embauche, le mec. Hein. Eh ben, il l'a catalogué comme les autres Roms. Tu vois. Et ça, bah voilà, ça fait partie du racisme. Tu vois.
Moi, je pense qu'il y en a, mais pas en Minguette, du racisme. Parce qu'on est plus unis ici et on se sent bien.
On est
bien,
plus solidaires, ouais.
On se sent chez nous. Mmh. Voilà.
Mais ailleurs, il pourrait y avoir du racisme.
Genre dans centre-ville.
Ouais, en centre-ville.
Ouais. Des regards, ouais,
des regards de travers,
ouais. Ouais, voilà.
C'est plus des regards.
Après, c'est réciproque, hein. Moi, si on me regarde de travers, je regarde de travers aussi, hein.
Je me sens pas. Je me sens pas rejetée,
ouais. Ouais.
On va à l'école comme tout le monde.
Vous êtes en quelle classe?
Terminale. Et moi, je suis à l'université en première année.
C'est pour moi, quand je me rappelle, quand j'étais au collège, je faisais de la mécanique générale. Et je voulais continuer justement dans ma branche. Et la conseillère d'orientation, grosso modo, m'a dit que non, il n'y aura pas de place, ou tu n'auras pas assez, t'auras pas les capacités, ou tu n'auras pas ceci, ou tu n'auras pas cela. Et du coup, bah, ça nous démotive. Ça nous démotive et on n'a plus envie de rien faire, quoi. Et au final, eh ben, on se retrouve à faire des petits boulots en intérim. 2 jours par là, 3 jours par là, jusqu'à qu'on trouve un contrat, on va dire, plus ou moins raisonnable, qui dure à peu près 6 mois. Et puis après, ben, rebelote, quoi, chômage, et ensuite on recommence, intérim, 2-3 jours par là, machin. C'est un éternel recommencement jusqu'à que tu trouves la solution. Moi, je connais quelqu'un qui a un bac plus 4. Un bac plus 4. Et aujourd'hui, bah, il est chauffeur d'ivoire avec son bac plus 4. Alors qu'à la base, c'est pas le métier qu'il rêvait de faire.
Et ça, c'est dû à quoi, vous pensez?
C'est dû à quoi? Bah, c'est dû à son nom et son prénom. Il a des noms, prénoms qui sont du côté Orient, on va dire. Vous comprenez? Et du coup, bah, ça joue beaucoup. Hein. Ça joue beaucoup. On croit que le racisme, il est fini. Non, il n'y a rien qui s'est aboli. C'est toujours pareil, c'est toujours aussi intense. Quoi qu'il arrive, on ne pourra rien changer.
Si on vient des Minguettes, ou de Vénissieux, on n'aura pas les mêmes accès à l'emploi qu'une personne qui vient de la ville, c'est clair. Par exemple, je postulais sur par jour 30 offres, 40 offres par jour, j'ai jamais eu de réponse. Et le jour où j'ai changé d'adresse, bah, comme par hasard, j'ai eu une réponse.
C'est un peu compliqué, surtout pour nous, les personnes qui pratiquent, entre guillemets, la religion musulmane. Après, voilà, on a des prières qu'on doit respecter, faire des prières à l'heure. Voilà, après, moi, je ne comprends pas des personnes qui sortent fumer leurs cigarettes ou prennent 5 minutes pour boire un café, fumer une clope, et que nous nous interdisent de fumer des... de faire la prière. Ça fait partie un peu du racisme.
Ouais.
Il y a une différence entre guillemets, voilà, ils n'acceptent pas ce qu'on... notre choix.
Je sais pas si je trouverais ma place en fait. C'est-à-dire qu'on m'accepterait pas comme je suis.
C'est-à-dire...
avec mon foulard. Et moi j'aimerais bien le garder plus tard où je travaille. En fait j'avais fait un stage et un stage en secrétariat et on m'a... enfin je l'ai enlevé à chaque fois. Ouais. Mais c'est ça.
Et vous l'avez enlevé de vous-même ou vous l'avez enlevé par peur ou vous l'avez enlevé...
Non, parce que je devais l'enlever.
Vous avez demandé.
Ouais, pas voilà. Obligation. Pas obligation, parce qu'on est obligé de l'enlever.
Et ça, vous assimilez ça à une sorte de racisme?
Ouais, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le garder.
Il y a dans des pays où on peut le mettre et...
Je vois pas pourquoi ici on n'aurait pas, le droit de le mettre.
C'est un peu une liberté d'expression. Tu t'habilles comme tu veux et... voilà.
Ouais.
Et comment ça se fait, à votre avis, qu'on fait des lois comme ça sur le voile?
Je comprends pas pourquoi, en fait.
Bah, c'est juste pour apporter un sujet, pour faire de la polémique, moi, je trouve. Parce qu'il y a d'autres problèmes et on se concentre sur des problèmes mineurs, en fait, alors qu'il y a autre chose.
Ouais, je pense. Je pense qu'ils devraient se concentrer sur d'autres choses que sur...
le chômage, c'est plus important que le voile, je trouve. Les médias, ils vont en parler, la radio, les journaux,
la télé. C'est vu qu'il se passe un truc, en fait, et que tout le monde... voilà, s'il se passe un truc sur l'islam, et bah, tout le monde s'y intéresse.
Avec le FN qui en monte là, en hausse, il y a de plus en plus de gens qui y adhèrent.
Vous, ça vous fait peur la montée du FN, de l'extrême droite en général?
Bah, un peu quand même. Un peu aussi,
si, ouais, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à son mouvement. Donc on peut se dire qu'il y a de plus en plus de racistes.
Vous votez?
Non, pas encore. Je ne sais pas.
Et vous auriez voté quoi si vous aviez pu voter?
J'aurais voté... comment il s'appelle, l'autre?
Mélenchon?
Non, François Fillon. Il y était?
Non. C'est pas ministre, lui?
Non, je sais plus.
Moi, si cette marche, elle sera refaire, je la referai, avec plaisir.
Ah.
Ouais, moi aussi, ouais. Je la referai.
Ça n'a pas changé, de toute façon. Que ce soit en 2013 ou avant, ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais, je pense. Tout est basé sur les constructions, rénovations, mais il n'y a rien, quoi. Il y a toujours la même répression qu'il y avait avant, quoi.
Quelle répression, par exemple?
Bah, la police. Ils mettent la pression, ils contrôlent les jeunes plusieurs fois dans la journée. Ils font sentir qu'on est différent des autres. Un gars de quartier, je veux dire un gars des Minguettes ou une personne de la ville va être contrôlé différemment, par exemple.
Il y aura toujours un petit raciste quelque part. Il y aura toujours un abruti avec un flingue à la ceinture aussi. Voilà. Donc, moi, je trouve déjà pas ça normal. Qu'on les appelle les agents de la paix, alors que dans leur tête c'est déjà la guerre, puisqu'ils sont armés déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quand même pas mal de flics qui sont cool avec nous. Il y en a même qui travaillent avec les voyous, il y en a qui sont tombés en prison, je crois, une dizaine. Et il y en a qui nous comprennent, qui nous écoutent. Mais il y en a toujours quelques-uns. Des éléments perturbateurs, on va les appeler comme ça.
Je suis foncé. FONCO. Et vive la France, français que de papier.
Qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Est-ce que vous pensez que c'est par des élections ou pas?
Non, c'est l'histoire. Reconnaître l'histoire. On apprend à l'école la Shoah. On apprend plein de choses. Mais par contre, quand il faut parler, par exemple, la guerre d'Algérie ou les guerres qu'il y a eu avant la colonisation et tout, on n'en parle qu'une année scolaire, quoi. Expliquer l'histoire, je pense que ça aiderait beaucoup les jeunes à comprendre ce qui s'est réellement passé et d'où on vient. Et je pense que c'est ça. Bah, regardez l'exemple, les États-Unis. C'est cosmopolite, je veux dire, il y a plusieurs races et tout le monde est américain. Et il n'y a pas de différence, quoi. Et là, ici, il y a beaucoup de différences.
Vous avez des enfants?
J'en ai deux, ouais.
Et alors, comment vous voyez leur avenir?
Franchement, je vous dis honnêtement, mal. Vu que nous, on a galéré, notre génération, je veux dire galéré, on a quand même ressenti beaucoup de choses, le racisme, l'emploi, plein de choses. Et nos enfants maintenant, bah, ça va être beaucoup plus complexe, je pense.
Quand on met un micro sur le marché des minguettes à Vénissieux, on parle très vite de racisme, d'inégalité de traitement et de brutalité policière. C'était contre tout ça, au même endroit, au pied des tours du boulevard Lénine, qu'il y a 30 ans avait été initiée la marche pour l'égalité et contre le racisme. À croire que ça n'a pas servi à grand chose. On revient sur l'histoire de cette marche dans 10 minutes dans la méga combi.
Méga combi prime time.
Je fais mon intro, mon entrée, sur une basse filtrée, une batterie électro, un micro éventré, en pleine zone sinistrée, entre usine et bistrot, je viens pour illustrer mon parcours de claustro, mes angoisses de frustré, dans un espace restreint, destin castré, prostré en queue de train, posté en retrait, sans rêve ni en train, mon mépris c'est mon abri, forcé, contraint, mes regrets sont corsés, maintes fois aperçus dans ces récits recto verso que je déverse ici, mon pédigré perso, me paraît sans issue, on veut prendre la bête au lasso. Vu que je l'apprécie, relâcher la pression, arrêter mon procès. J'ai l'impression que tout m'empêche de cracher ma version, de lâcher mes dossiers. Quoi que vous fassiez, car à mon aversion, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est glacé. La largeur de mes narines, ma mélanine, la blancheur de mes bleus marines. Haïve la largeur de mes narines, ma mélanine, la blancheur de mes canines.
Et apparemment ils vont nous virer les environs, sans tarder, venir nous récupérer sur nos perrons et opérer avec le fleuron des flingues au ceinturon. Tout ça pour nous capturer et tirer au son du clairon. Le pays semble apeuré, dites les parias sont pourris, carap véreux, plantaré, enigma, on serait l'avarie. Que leur folie est avérée, ahurie et en furie, délibérément délurée et enivrée de peuplée. Que le combat serait à livrer en périphérie, retransmis à la télé, diffusé en différé. Que TF1 aurait l'exclusivité du safari, présenté par une connasse d'animatrice préférée. Alors prenez les paris et prévenez tous les parents qu'il faudra coucher les enfants et puis sortir les mamies. Ce soir à l'écran, un pur moment de féerie, de crève la faim chassée en charter et en ferry.
Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, mon regard est glacé. Aide, ma tignasse noire ou ma bouche épaisse, qui m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce. Aide, ma tignasse noire ou ma bouche épaisse, qui m'empêche d'appartenir à l'humaine espèce.
T'as pas le bon numéro, t'es pas le favori, pas le héros qu'on va adorer à la fin de la série. Plutôt l'immigré qu'on va s'assurer de réinsérer. Les CRS en resserré ont sorti leurs griffes acérées. Ton ulcère va macérer, renversé et essoré. Tout autour de ta tête étourdie, les gourdins sont brandis. Les blindés sont réduits, tendus, parés à bombarder. C'est pas la peine de parader, t'as pas ta place au paradis. C'est décidé, t'es décédé, bavarder c'est cause perdue. Ton taudis est dégradé, ta violence est débridée. Ta culture est dépravée, ton cerveau est délavé. Tu vas en baver car ta sépulture est déjà gravée. Ils vont braver tout ce qu'ils vont trouver sur ton parvis. Finir d'achever les frères qui n'ont pas encore crevé. Sans toi, sans t'en priver, si tu es toujours en vie. Ils sont motivés à foutre le mot fin sur ton CV.
Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, ton regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé, ton regard est glacé.
Et ma race dans la pisse, la bouffe, la chiasse, vit dans le gouffre, le vice et la crasse. Et ma race dans la pisse, la bouffe, la chiasse, vit dans le gouffre, le vice et la crasse.
Vous écoutez Radio Canu, il est 18h30-1. Salam El Kobri.
Salam Combi, tout de suite des news pour ne pas oublier. Et oui, lutter contre l'oubli, ne pas connaître le passé, c'est être condamné à le revivre. Alors c'est pas la peine de penser à prévoir un barbecue ce week-end. Souvenez-vous, c'est l'automne, les merguez vont être toutes mouillées et il va faire froid. Bref, toute société doit apprendre de ses erreurs, les commémorer pour éviter de graves désillusions.
Il avait oublié ses enfants dans la voiture sur le parking de Mammouth.
Et puis le temps a passé, Mammouth est devenu continent, puis continent est devenu carrefour. La Volvo a commencé à rouiller, les enfants ont grandi et ont passé leur enfance et leur adolescence à mendier dans la galerie marchande, retournant dormir la nuit dans la voiture. Et ce n'est que le week-end dernier que Jean-Marc Guérin a fini par se souvenir d'eux et les a enfin ramenés à la maison. Tout est bien qui finit bien.
La belle histoire de la semaine, c'est ce gagnant de l'Euromillion qui a remporté 14 millions d'euros.
Et oui, l'heureux gagnant a tiré son ticket lundi dernier au bar tabac Le Proxo de Brossouille-sur-Peignoir. L'homme, dont on sait seulement qu'il a une vingtaine d'années, était inscrit au Pôle emploi, a évidemment préféré garder l'anonymat. Il a cependant déclaré par un Facebook sous le pseudo de Roberto Escobar qu'il comptait en profiter pour alimenter le narcotrafic de sa région, un trafic qui bat de l'aile depuis quelques années, laissant sur le carreau beaucoup de jeunes dealers prometteurs.
Et c'est une belle initiative pour favoriser le développement local.
Et puis il nous a quittés cette semaine.
Denis Guibert, vous vous en souvenez certainement, c'était ce guitariste devenu le roi de la ligne C du métro lyonnais qui enflammait les passants de la station Saxe Gambetta dans les années 80. Des fans se souviennent qu'il faisait exprès de passer par ce couloir du métro pour le voir jouer des reprises lumineuses de Led Zeppelin. Il fit même pendant plusieurs semaines la une de Lyon Poche. Et puis, peu à peu, il est retombé dans l'oubli, la faute sans doute à l'apparition de la ligne D du métro, l'apparition également de nouveaux musiciens. Bref, Denis Guibert est décédé ce matin au milieu d'un solo de Stairway to Heaven dans le wagon numéro 2 du Rhône Express où il espérait se refaire une réputation. Bon vent, Denis, tu vas nous manquer.
Eh ouais, bon vent. Octobre, c'est aussi la saison des prix Nobel.
En effet, et le prix Nobel de médecine a été décerné au professeur Tromsen, récompensant son travail sur la maladie d'Alzheimer qui pourrait révolutionner le traitement de cette maladie. L'étude de Tromsen, réalisée auprès de 234 patients, montre que près de la moitié des malades feraient juste semblant de tout oublier, tout le temps, parce que c'est bien pratique, surtout quand on a toujours rêvé de se balader en pyjama au bord de l'autoroute. Le professeur Tromsen, déjà auteur d'un ouvrage de vulgarisation sur la mythomanie chez les personnes du troisième âge, livre un rapport coup de poing et dénonce les faux-semblants de la vieillesse.
Et puis prix Nobel suite, cette année le prix Nobel d'acupuncture a été attribué à Nicolas Peschke, ce n'est pas une surprise. Et puis le prix Nobel de cornemuse récompense cette année le parcours d'un autodidacte, celui du guatémaltèque Alvaro Rocas. Enfin il faudra attendre 20h pour connaître le lauréat du prix Nobel de bodybuilding.
Et puis à ne pas manquer cette semaine ce dossier dans l'Express sur les 50 meilleures cliniques psychiatriques du département, si vous avez vraiment besoin de vous faire oublier pendant les vacances de la Toussaint.
Voilà, pour terminer, nous ne les oublions pas. Comme chaque semaine, une pensée pour Mega, Frib et Gunther, toujours retenus dans l'Azerbaïdjan, ou bien rive droite du Rhône, ou encore au-delà du mur d'Adrien. Non, nous ne vous oublions pas, mais à un moment, il faudra quand même penser à rentrer.
La prime team de Mega Combi,
tous les mercredis à 18h,
sur Canu.
Move your body, now stop, move your mind. Cause in this space and time, there are more than jewels out there to shine. I mean, hold it down, stop acting the clown. Cause the things you do are causing us to frown. Being straight ahead, it wasn't about what doesn't exist. If I was to believe everything you said, I'd end up believing the grass is red. Get excited, folks are acting criminal. Your action is something that should be indicted.
écoutez Méga Combi, une émission qui marche.
Moi, je marche pour avoir le droit de m'arrêter de temps en temps.
Moi, je marche pour essayer de sentir que la terre est ronde, mais mes pieds ne sont pas assez grands.
Moi, je marche pour aller de mon appart à ma voiture, puis je marche pour aller de ma voiture à mon boulot, puis je marche pour aller de mon boulot à ma voiture, puis je remarche pour aller de ma voiture jusqu'à chez moi. Si j'avais pas de caisse, je marcherais jamais.
Le 23 mars 83, une descente de police aux Minguettes dégénère en affrontement violent. Pour déjouer l'état de siège qui s'ensuit, 11 jeunes parmi lesquels Tommy Jaja lance une grève de la faim et crée l'association SOS Avenir Minguettes. Leur objectif, l'arrêt de la guerre privée avec la police et la réhabilitation sociale et urbaine de leur quartier.
Documentaire.
L'élément déclencheur, c'est le contexte et quelque chose qui va se passer une nuit où il y a des rodéos à Vénissieux.
Farid Lawa.
Toumi Jaja.
Ancien marcheur.
Intervient en tant que grand frère pour essayer d'être médiateur sur un conflit avec des policiers et dont certains maîtres chiens. Et à ce moment-là, Toumi est blessé. Donc, il prend une balle par un policier qui, pris de panique, voilà, se croit agressé. Et voilà. Bon, le contexte était très, très tendu.
83, c'est deux ans après 80, après le changement de pouvoir en France.
Christian Delorme, ancien marcheur.
Et on oublie que les dernières années de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing sont des années où il y a eu une volonté de faire partir toute une partie de l'immigration en France, et notamment les Algériens, de ne pas renouveler les certificats de résidence des Algériens. Si bien que la victoire de la gauche a été vécue vraiment par l'immense majorité des immigrés comme un immense soulagement. Et en 83, on est encore deux ans après cette victoire de la gauche où les gens pensent qu'il est encore possible de changer la vie. Et si bien que lorsque il y a des incidents à répétition entre jeunes et policiers, lorsqu'il y a la montée du Front National, lorsque il y a la montée aussi des mouvements de légitime défense, eh bien, il y a encore suffisamment de gens à travers la France qui sont capables de réagir, de bouger en disant on peut empêcher cette montée du Front National, on peut empêcher cette victoire des tenants de la légitime défense, etc. Et donc, la marche pour l'égalité, c'est une idée qui a surgi aux Minguettes à la suite de, on peut presque dire, deux années où les incidents se sont multipliés entre jeunes et policiers. Au bout de deux années où, à travers la France, il y a eu beaucoup de morts violentes de jeunes issus de l'immigration, avec beaucoup de mansuétude de la part des tribunaux à ce moment-là, des magistrats. Donc, il y a un besoin de réagir.
Kader de Vitry, 15 ans, tué en 1980. Lawari Ben Mohamed, tué par un CRS à Marseille en 80. Abden Bigamia, tué par un bouffe à Nanterre en 82. Ouedia Chichi, 18 ans, tué à Lyon en 82. Toufi Guanès, 9 ans, tué par un voisin d'immeuble en 83. Zoroui Ben El Mabrouk, tué à Paris en 84. Bardet Barka, tué à Vaux-en-Velin en 85. La liste des victimes est terriblement longue, mais leurs familles et leurs amis sont là pour réclamer justice et sécurité.
Donc se met en place une initiative qui est celle de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et ça, c'est son intitulé. La marche des beurs est une invention médiatique, encore une fois, pour minimiser et ghettoiser les acteurs. Donc, est lancée la marche pour l'égalité contre le racisme, avec en amont une préparation, en tout cas une concertation avec les mouvements, on va dire, alternatifs. Et certains membres de l'association SOS Minguettes, qui est fondée justement pour venir en aide à Toumi en comité de soutien, ils rencontrent les militants du Larzac, ils rencontrent des militants du MAN, mouvement alternatif non violent, avec en parrainage donc la CIMAD, la participation de la CIMAD, Jean Costil, Christian Delorme. Et là, ils lancent l'initiative d'une marche pour simplement dire aux gens. Voilà, ben nous on a grandi à l'ombre des cités, on a grandi à l'ombre de nos parents. Nos parents sont toujours restés silencieux, nos parents n'ont jamais eu le droit de vote, nos parents n'ont jamais eu le droit de se syndiquer, etc. Voilà. Donc l'idée c'était de pouvoir faire remonter d'en bas vers le haut, c'est-à-dire rencontrer le président de la République, à l'époque c'était François Mitterrand. Donc la marche elle part quasi incognito de Marseille, ils sont à environ une trentaine.
Pourquoi Marseille? C'est parce que c'était symbolique, c'est qu'il y avait eu un jeune qui avait été tué à la Caillole, on avait donc décidé de partir là-bas, puis il y avait vraiment une idée de traverser la France, et puis de la traverser, de refaire la route que beaucoup d'immigrés avaient faite, notamment les immigrés du Maghreb qui arrivaient à Marseille pour aller à Paris, à Lille, à Lyon, etc. Quand on regarde ceux qui étaient là, bon, il y a le noyau des Minguettes, mais après vous avez quelqu'un comme Bouzid Kara qui lui venait d'une famille de harkis d'Aix-en-Provence qui avait un vécu très très lourd. Vous avez un routard qui nous a rejoint, vraiment le routard, le gars qui, cinquantaine d'années, qui se louait de temps en temps comme vendangeur ou comme ramasseur de pommes, mais qui était un vrai routard. Il y a eu un jeune dont on n'a jamais bien su d'où il venait, un jeune d'origine marocaine, on n'a jamais bien su son âge, s'il était mineur ou majeur, qui très certainement était arrivé en France de manière irrégulière. Voilà, il nous a rejoint et il ne nous a plus quittés. Donc il y a eu c'était assez étonnant ce groupe.
Novembre 83, plein milieu de la marche, on est à Nancy. On apprend qu'un Algérien a été jeté du train et que personne n'a bougé dans le wagon, personne n'a tiré le signal d'alarme. Par des apprentis légionnaires. Abim Grimzi, il a été défenestré. Ça a été très, très durement ressenti par la communauté algérienne. Surtout que ça faisait des semaines que les marcheurs, ils se tapaient 30 bandes par jour pour délivrer un message de fraternité, un message de paix. Ensuite, il y a eu les menaces d'attentats en région parisienne de la part de groupuscules néo-nazis, Front National, à l'encontre des marcheurs. Parce que le mouvement commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Il y a eu à partir de, juste avant Strasbourg, une succession, ce que j'ai appelé les franchissements des cercles, puisqu'il fallait atteindre le chef d'État. On a vu débarquer Monseigneur Lustiger, on a vu débarquer Jacques Lang, ministère de la Culture, on a vu débarquer Edmond Maire, une multitude d'hommes politiques et de femmes engagées qui représentent ce qu'on appelle les cercles du pouvoir. Donc voilà. Et on a été reçus au Parlement européen, etc. etc. Et enfin, dernier moment fort, c'est l'arrivée sur la région parisienne et la rencontre avec les ouvriers des chaînes, des usines de Flins, Boulogne-Billancourt. Donc, la rencontre entre la génération des ouvriers et leurs enfants.
Parti en octobre 83 de Marseille dans l'indifférence de la vie générale, la marche pour l'égalité et contre le racisme fait un tabac à son arrivée à Paris. Le 3 décembre, 100 000 personnes accueillent les marcheurs. Pour répondre au syndrome de Dreux, c'est-à-dire à l'alliance entre la droite traditionnelle et le Front National pour gagner une élection partielle, le sérail politique et le gouvernement rallieront la marche. Et le président Mitterrand accueillera les marcheurs sur fond de nouvelles promesses.
Écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand.
Je suis la soif et puis la marche des exclus. Qu'on sorte ce qui est moche et qu'on n'en parle plus. On marche dans l'autopo et pas de doute. Et je rajoute, allez rajoute. On voulait juste une seconde voir nous. La salle bête qui dit, on est plus chez nous. Je fais la pub pour ça, je fais même le cri. On se fout des manières, des modes et du prix. Pourvu que nos chemises à un soient réduites en éponge. On rentre torse nu, cette nuit on pourra dire nous, qu'on était présents et qu'un jour on avait les yeux qu'on avait dedans. Là on va, nous on est chez nous, bam bam. Qu'on est goupille ou pas, là on va, on est chez nous.
Elle est partie il y a donc pile 30 ans, cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle a été un véritable succès. Les médias l'ont appelée la marche des beurs. Pourtant, seulement la moitié des marcheurs permanents étaient d'origine maghrébine. Et c'est pas par hasard si on a voulu la réduire à ça. Mitterrand, quand il reçoit les marcheurs, sait qu'il a face à lui un mouvement indépendant, autonome, issu des quartiers populaires. Et qu'il faut faire attention à ça quand on est au pouvoir. À la suite de la marche, les quartiers vont foisonner d'initiatives associatives et militantes. Se tiendront dans la foulée les assises des banlieues. Et un an plus tard, une nouvelle marche intitulée les Convergences 84 avec le slogan « La France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il faut du mélange ». Et c'est à l'issue de cette marche, lors de son arrivée à Paris, qu'apparaissent mystérieusement des petites mains jaunes sur lesquelles il est inscrit « Touche pas à mon pote ». Le slogan parle de lui-même, il ne vient pas du tout des quartiers. Et Farid, ancien marcheur de 83 et de 84, raconte comment le pouvoir a récupéré ce beau mouvement populaire et autonome.
Mitterrand est surpris. Et là, le signe d'une vision intelligente, de se dire, mais attention, politiquement, il n'est pas bon que le mouvement de l'antiracisme reste ou soit dans le giron de la base. En tout cas des jeunes, en tout cas du milieu de la population basique, le peuple. Il faut qu'on le garde. Donc qu'est-ce qu'il fait Mitterrand? Il met en place un comité avec des publicitaires, des sociologues, il y a l'architecte Castro, enfin il y a toute une bande, toute sa cour, une partie de sa cour, se met au travail, réunit un groupe de gens et y crée SOS Racisme. La main, c'est un publicitaire qui la crée. Pour avoir une empreinte, c'est le cas de le dire, une main tendue vers les jeunes. Là-dessus, nous, on a une rencontre qu'on a appelée une rencontre, la première rencontre, c'est à la fac d'Assas, c'est une rencontre secrète entre des militants et les responsables de la marche pour l'égalité de Vénissieux. Moi, j'y suis. Il y a des militants du collectif parisien et en particulier des journalistes de Sans Frontières. Et en face de nous, on a le staff d'SOS Racisme. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit arriver Harlem Désir, la fleur au fusil, demander notre adoubement de ce mouvement. En échange, ils amènent la logistique, ils amènent des moyens, mais il y a une contrepartie. Pas d'engagement et pas de positionnement politique autre que celui de l'antiracisme sur le territoire national. On ne veut pas entendre parler de Palestine, on ne veut pas entendre parler de liens avec les pays d'origine, on ne veut pas de revendications sur le droit de vote, etc. La bonne cause, les petites fleurs, les papillons, le c'est méchant, l'antiraciste c'est pas bien, vilain pampant sur les doigts, tu dois pas être comme ça, tu dois être gentil, tu dois faire la bise à ton voisin, il est bronzé, il est noir, il est jaune, on est tous des frères. Voilà, et on chante et on danse ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je caricature. Oui, mais dans le conseil d'administration de SOS Racisme, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de Maghrébins, mais on remarque aussi que l'Union des étudiants juifs de France est majoritaire. Et il y a un monsieur qui s'appelle Julien Drey. Et donc, on discute pendant, je crois, des heures. Et on sera à 1h, 2h du matin. Et puis, on n'est pas d'accord. Là, vous êtes en train de nous dire, il y a un budget. Il y a déjà un conseil d'administration, il y a déjà des gens qui sont membres de droit, il y a déjà des orientations politiques. Et vous nous dites de faire de la figuration, vous avez besoin de nous. Ils voulaient que nous soyons leurs mains. C'est le cas de le dire, pour vendre des mains.
À l'époque, c'était la gauche qui était en place.
Sali Amara.
Il leur était très difficile de trouver un leader parmi nous.
Du comité parisien d'accueil de la marche.
Personne ne pouvait prétendre de représenter toute cette émergence. Et l'État avait besoin de quelqu'un. Comme il aurait été impossible, parce qu'il y avait quand même des embrouilles, des magouilles, des gens qui essayaient déjà, entre guillemets, qui fréquentaient déjà les couloirs des ministères, etc. Donc, en fait, des gens même qui étaient de nos alliés, qui vont rejoindre d'ailleurs SOS Racisme après coup, et que SOS va récupérer finalement toutes nos luttes. Intérieur. Même le système, on avait décidé par exemple dans ces assises d'avoir un autocar et puis de sillonner les banlieues, etc. C'est une idée qui a été reprise par SOS et dont ils avaient les moyens de faire. Parce qu'il faut savoir quand même que nous, on n'avait pas les moyens quand même de nos actions. Et il fallait bien évidemment se donner les moyens.
Oui, ça c'est
Julien Drey.
Ce que j'ai entendu a posteriori. Mais nous, on n'a pas ce pouvoir-là.
Fondateur de SOS Racisme.
Nous, on a une petite main. On la sort à 10 000 exemplaires, après s'être cotisé les uns les autres pour se payer ce badge. On n'a même pas un local, hein, on est en train d'en chercher un, qu'on va trouver dans le 10e arrondissement.
Quand on est proche du PS, on a plus de facilité à contacter des gens comme Guy Bedos pour parrainer les choses, pour faire une grosse opération, un gros concert sur la place de Concorde, moyen qu'il n'y avait pas les marcheurs en 83 en tout cas.
Mais non, monsieur, si vous voulez m'interviewer pour avoir la vérité, laissez-moi quand même défendre ma vérité. Je m'excuse de vous le dire, ils avaient autant de moyens que nous. Vous croyez quoi ? Que c'est l'Élysée qui a téléphoné à tous les artistes en leur disant « faut rencontrer SOS Racisme ». Mais si vous pensez ça, vous vous trompez. Voilà. Après que, fort du succès qu'on rencontre, ça intéresse l'Élysée, que ça intéresse François Mitterrand, que ça intéresse tous les partis politiques, c'est une chose, mais le succès de SOS Racisme, il n'est pas lié à, je dirais, un cabinet secret qui s'était réuni et qui avait fait un planning. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, on ne peut pas, je dirais, mobiliser les gens comme cela simplement par une vision policière de l'histoire.
Et c'est malheureux à dire, c'est que nombre d'associations qui se sont créées après 83 se sont même mis à aller acheter les petites mains ne touche pas à mon pote, et se sont mis à les vendre pour SOS. Fortement médiatisés, d'ailleurs tous les médias n'avaient de yeux que pour SOS, pipolisés, hein, Coluche était là, même Christian.
J'ai été contacté par SOS Racisme, Toumi aussi, et moi j'ai été plutôt favorable au début. Aujourd'hui je porte un regard mitigé, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu des aspects positifs à SOS Racisme, qui a éveillé à l'antiracisme toute une catégorie, toute une classe d'âge de jeunes qui étaient collégiens, lycéens à ce moment-là. Et ça, c'est pas négatif. Le côté négatif de ce racisme, c'est que SOS Racisme a pris toute la place et que le mouvement associatif jeune dans les quartiers s'est trouvé marginalisé.
Vous avez écrit une lettre à SOS Racisme en 85, je crois que je l'ai là d'ailleurs. Vous écrivez à Harlem Désir en lui disant, je suis embarqué là-dedans, mais il y a quand même quelques remarques. Alors vous avez cité ce fait que du coup SOS masque un petit peu les associations de quartier. Il y a aussi le fait que dans SOS Racisme, le conseil d'administration est essentiellement tenu par des gens de l'Union des étudiants juifs de France et ne représente plus du tout de fait la jeunesse des quartiers issus de cette marche pour l'égalité.
Oui, il y a eu cette question qui s'est posée au démarrage de SOS Racisme, c'est que parmi les groupes constituants, enfin, il y avait des personnes et il y avait des groupes qui constituaient finalement SOS Racisme, notamment l'Union des étudiants juifs de France. Et je crois que là, il y a eu une erreur de SOS Racisme à ce moment-là, en effet, de mêler les choses. Et je pense que cette erreur, on la paye encore parce qu'aujourd'hui, toujours, il y a cette idée d'un antagonisme entre Arabes et Juifs dans un certain nombre de quartiers, etc. Et je crois que SOS Racisme, en voulant éviter ça, en fait, là, l'a plutôt encouragé, quoi. Donc moi j'avais été amené à soulever cette question, ce qui m'a valu quelques foudres à l'époque.
Du coup là j'ai un document sous les yeux qui est une lettre que Christian Delorme envoie à Harlem Désir qui est à l'époque président de SOS Racisme, où il dit « Le thème œcuménique de Touche pas à mon pote ne permet-il pas à de nombreux leaders d'opinion de s'affirmer antiracistes, faisant oublier les conditions concrètes d'existence des communautés maghrébines ?» Il revient aussi sur le fait que SOS Racisme laisse une grande part dans ses dirigeants à l'Union des étudiants juifs de France, et qui affirme, elle, sa solidarité avec Israël, comme c'était le cas dans Le Monde du 3 avril, je recite toujours Christian Delorme. Et puis dernière citation issue de cette lettre, l'importance... Et je trouve que c'est assez juste l'importante prise par cette association.
Vous n'êtes plus journaliste, vous êtes déjà en train de porter.
Non, mais moi je viens vous demander votre avis.
Non, vous me dites c'est assez juste ce qu'il vient de dire. Donc vous voyez, vous êtes déjà un militant, ce qui est votre droit. Mais venez pas me dire à moi que vous êtes là neutre et impartial. Et donc on arrête là tout de suite notre travail, parce que je connais cette chose.
D'accord, vous ne voulez pas répondre alors.
Mais non, je ne veux pas répondre, parce que ce que vous me faites, c'est un truc que j'ai vécu il y a 25 ans, je connais, etc. Donc on arrête là. Voilà. Je suis poli, gentil, mais je ne suis pas naïf.
Non, mais je veux dire, sur les premières questions, vous avez donné votre avis.
Vous ressortez le truc sur Israël et compagnie, ça va, je connais.
C'était il y a 5 ans qu'on avait rencontré Julien Drey pour essayer de comprendre comment était né SOS Racisme, et 25 ans après la création du mouvement antiraciste, il était toujours dans le déni, une sorte de négationnisme, quand il s'agit de reconnaître le but premier de SOS. Pourtant, ce sont des choses qui sont aujourd'hui avérées, ça a notamment été rapporté dans les verbatims de Jacques Attali. SOS a bien été imaginé par Mitterrand et ses conseils pour récupérer et instrumentaliser les mouvements autonomes des quartiers populaires. La petite main a été créée par Jacques Séguéla. Alors on reviendra dans les prochaines semaines avec un autre documentaire plus détaillé sur ces mouvements des banlieues et leur instrumentalisation par le Parti Socialiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut tirer un bilan assez amer de ces 30 ans de marche. Une marche oubliée. On a beau commémorer les 30 ans un peu partout aujourd'hui, selon un récent sondage, seulement 19% des Français en avaient entendu parler, alors que c'est quelque chose de fondateur dans l'histoire des héritiers de l'immigration et donc dans l'histoire de ce pays. Le traitement infligé aux marcheurs de 83 qui ont été cantonnés à une identité de beurre ou d'indigène est pour certains aussi la source d'un certain repli sur la religion, d'un certain communautarisme identitaire sur lequel surfe l'extrême droite. Les marcheurs de 83 s'inquiétaient de la montée du FN qui gagnait les élections à Dreux. Aujourd'hui, le FN gagne à Brignoles. Et même dans les quartiers, on sent une montée des idées identitaires d'extrême droite. Le meilleur exemple, c'est Farida Belghoul, figure des mouvements militants des quartiers des années 80, leader de la marche de 84, qui a récemment rejoint les néo-nazis d'Alain Soral et de Dieudonné avec leur mouvement Égalité et Réconciliation, qui a une certaine aura dans les quartiers populaires. Comme le disent les rappeurs Medine et Youssoupha, dans certains quartiers, on écrit parfois Tess avec 2 S et Bloc avec 3 K.
C'est l'histoire d'un noir et d'un arabe.
Non. Faux départ. Toutes les histoires qui commencent comme ça se finissent toujours mal. Des autres, c'est le monde des blocs, des blocs. La crise identitaire est un problème d'époque, d'époque, d'époque. Le communautarisme, le cancer des blocs, des blocs, des blocs.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tester mon gabarit? Tu crois qu'il y a Paris, qu'on accueille bien les Qataris? Ferme ton bec, ravale tes blagues raciales. Ou dans ton bled tu te feras rare comme un black asiat.
Rien à battre que tu sois un brave musulman. Vu qu'un arabe qui fait du rap reste un arabe qui gâte ma black musique. Tu cheats dessus quand c'est la tempête. Donc laisse ton panthère noir. T'aurais dû appeler ton album Arabian Pampers.
Tu crois réunir les noirs avec ton noir désir. Mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. Avec vos différences de langue, tous les 10 villages. Si les noirs sont divisés, c'est qu'ils sont divisables.
Tu dis vague, j'ai pas besoin qu'on m'accepte. J'ai les maghrèles, la pire des négrophobies. Moi je l'ai subi au Maghreb. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste. Et aucun nègre n'oubliera que les arabes étaient esclavagistes.
Parle-moi plutôt de l'esclavage des noirs eux-mêmes. De tous ces oncles Tom qui ont enlevé des âmes humaines. Les premiers négriers étaient vos égaux. Je crois bien que t'aurais fini comme Samuel Jackson dans Django.
Contrôle d'identité entre des frères de blood, de blood. C'est pas de la faute des autres si le monde est blood, des blood. La crise identitaire est un problème d'époque, d'époque. Le communautarisme, le cancer des blood, des blood.
C'est vous qu'on trouve les traîtres et les gars soumis. Donc entretuez-vous avec vos nidim et vos chalkoumis. Dans une embrouille entre rebeux, faut jamais s'incruster. J'avoue, je suis malheureux, j'aurais dû laisser Nesbill t'insulter.
Un peu de cash sur la table et les blacks se calomnient. Nous si on se clash, c'est pour mieux se réunir comme Inoua le Shaoud. Y'a pas que le sable du Sahara qui nous sépare. Et on sera toujours plus unis que Kerry James et Kevin Seba.
Nous au moins on a des leaders, viritant nos phases. C'est notre auteur qui fera toujours fantasmer vos femmes. Pas de pitié, alors écoute bien. Vous préférez les lapider, alors elles préfèrent notre coup de rein.
Les bonobos ne pensent qu'à tartiner les beurettes. Ils négligent leurs femmes, excisées à la clé à molette. Je veux pas de faux rituels, j'évite les unions mixtes. Heureusement que les arabes ont amené l'islam aux animistes.
Heureusement que le prophète était un être à part. Heureusement Dieu nous protège de vos coutumes d'arabes. Normal que tu stagnes. Les ignorants comme toi ont bien vite oublié ce que Bilal a fait pour l'islam.
On a plus les yeux en face des trous. Comme sous une cagoule du Ku Klux Klan qui masque le jour. Qui écrit bloc avec 3K. Qui écrit test avec 2S. Doit prendre garde. Rien ne sert de jouer au beurre ou au placos fier. D'être plus identitaire que sur la blogosphère. On revendique être gosse d'Afrique. Mais qu'être ethnocentrique, c'est être égocentrique. Quand les vieilles victimes deviennent de jeunes auteurs. Porteurs du gène d'Hitler sans être leur géniteur. Quand le poison s'invite dans une blague lambda. La mixité ressemble au mariage de Black Mamba. Des traditions aussi snobinardes que celles des apéros sauvages, saucissons pinards. Faussement droit, glomiste et républicain. Éradiquons le radical qui sommeille en chacun.
Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres.
Tu m'as dit je t'aime.
Je vous aime.
Je t'ai dit à temps.
Quel courage.
J'allais dire prends-moi.
Méga combi, prime time.
Tu m'as dit va-t'en.
Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça.
Love you, love you, love you. You know you think you're blessed.
You're blessed.
Dans une casserole de taille moyenne, faites revenir l'oignon finement émincé dans l'huile jusqu'à ce qu'il soit doré. Bon, il n'y a pas d'oignon. Ajoutez le riz arborio et mélangez avec une cuillère en bois. Ok, c'est bon, elle est en bois. Jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
Rajoutez un polype
et une morve momifiée.
Putain, j'en ai sorti un bon là.
Qu'on aura au préalable déshydraté puis rehydraté.
Hein, afin d'en retirer, j'ai envie de finalement de dire toute sa saveur.
La veillée des diablesses, l'émission qui parle des mixions.
Mucus, urine, fesses.
Et autres liqueurs humaines. Extrayez votre mucus
à l'aide d'une pompe à mucus, achetable en pharmacie.
Congelez-le
dans des bacs à glaçons.
Si un jour vous offrez un petit apéro, mettez du mucus gélifié
de
dedans le verre. Verre
de votre invité, s'il vous plaît. D'accord ? Ok. L'émission radiophonique qui parle des humeurs corporelles des hommes.
Extraction du polype.
De la race humaine.
Extraction du polype.
Donc ça tremblote, hein, c'est un peu gélatineux.
C'est mort. Oh, hein, faut rappeler que c'est mort.
C'est mort. Je prends avec les doigts, vous permettez, on n'est pas chez les Rothschild.
Aurais-tu un couteau qui couperait la matière gluante ?
Tu veux du blé du des ? Adi blé blé de double du le des.
Ça y est, c'est fini.
Salut.
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
Tu as reçu mon texto ?
Je l'ai reçu, oui. Mais là, c'est pas le moment.
Doucement. Doucement. Allons-y.
En bloc 2.
Vite, vite.
Si t'as pas tout compris, si tu veux écouter cette émission la nuit, si tu veux faire grandir les petits,
si tu veux ta dose de méga combi avant le prochain mercredi, va sur internet et tape méga combi.
Parle-moi, dis-moi ce qui se passe.
C'est terminé. Ça se termine maintenant.
Méga combi, c'est fini.
J'ai l'impression que les gens ne savent même plus pourquoi ils font certaines choses. Aucune idée.
C'est la vie. Ça fait partie de la condition humaine.
Si tu penses que c'est ça, j'ai plus rien à dire.
Désolé les enfants, c'est terminé.
Regarde. Tu vois ?
Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors, l'apéro, le bédo et un dernier petit mot.
Et un dernier petit mot. Un dernier petit mot.
Je sais pas vous, mais j'adore flâner dans les galeries marchandes.
Ouais, moi aussi.
Ah, j'adore, parce que les gens, je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux ici. Ils ont pas de boutons, vous avez remarqué ?
Ouais. Ah, tu les trouves beaux, les gens, là ?
Ah ouais, vachement plus. C'est la lumière, je pense.
Non, puis c'est spectaculaire. Hein. Moi, je prends... Chaque année, je prends 2-3 jours dans l'année où je me fais des journées, galeries marchandes, 9h-18h.
Moi, l'année dernière, j'ai été en Pologne. Il y a la plus grande galerie commerçante d'Europe.
Ah ouais ?
Ah, la chance !
Ouais, ouais, ouais.
Ça
tu prends un avion le matin, tu rentres le soir et tu passes la journée tranquille.
Trop bien.
Ouais. Ouais. Il y a des jolis bancs aussi là-bas. Des fois, il y a du monde, mais moi, quand j'avais été, c'était génial.
C'est bien quand il y a du monde, hein. Aussi.
Et les jets d'eau en plus, enfin il y a de quoi se divertir, les jets d'eau, les grands jets d'eau là, comme ça.
Ouais. Il est beau là celui-là.
Ouais, il marche pas, mais quand il marche, c'est beau.
Bah il y a de l'eau quand même un peu.
Ouais, ouais, il reste de l'eau qui stagne.
Ah, ça donne envie de se baigner, non ?
Un peu, ouais. Ouais,
un peu, ouais.
Bah on y va, non ?
En plus, vu qu'il fait très très chaud.
Bah ouais, moi j'ai pas de maillot, mais c'est pas grave, on peut y aller à poil.
Bon, ouais, bras, comme ça, ouais.
Fou, ouais.
Super. Allez.
Eh ben on y va.
On va piquer une tête.
Allez, petite tête.
Méga combi.